Nous avons constaté, à partir d'une consultation extrêmement large, de beaucoup de conférences épiscopales, de nombreux évêques, d'associations familiales et de particuliers aussi qui sont engagés dans la préparation, le service de la préparation des fiancés au mariage, qu'il y a une extrême diversité de propositions pastorales dans le monde entier et même dans les différents pays d'un diocèse à l'autre. Alors, ce n'est un secret pour personne que dans des contextes de raréfaction des prêtres, il y a des préparations au mariage qui se font sur la base de 3-4 rencontres où parfois il est difficile d'aborder le cœur des problèmes et par conséquent il y a une nécessité d'offrir un service à ceux qui préparent au mariage, c'est-à-dire les opérateurs familiaux et surtout les prêtres aussi qui reçoivent les fiancés, un instrument pour rappeler de façon claire et accessible mais en même temps substantielle ce qu'il convient de transmettre aux fiancés qui demandent à l'Église le sacrement du mariage. Alors c'est un document qui pour l'instant un ensemble de propositions, une sorte de texte afin de parvenir à un document définitif dont on espère qu'il verra le jour d'ici un an et demi ou deux maximum. C'est une demande, vous savez, qui nous vient de très nombreux endroits dans le monde. Il y a un besoin et une attente que l'Église, finalement, disons, offre un instrument utile, pratique et accessible pour aider la préparation au mariage.
Une des lignes fortes aussi de ces réflexions lors de cette assemblée plénière a été l'enfant et les droits de... Comment protéger l'enfant, justement, et l'enfance maltraitée à travers le monde. Quelle ligne saillante vous avez retenue de ces réflexions ?
Par rapport aux droits de l'enfant, il y a plusieurs aspects. Alors, on a rappelé, évidemment, comment un enfant acquiert sa propre identité au sein d'un mariage, d'un rapport avec une mère et un père, et aussi comment il est destiné à croître et à grandir dans un contexte qui favorise son identité, qui favorise sa croissance à tout point de vue. Dans les droits de l'enfance, il y a évidemment le droit à tous les soins matériels et humains normaux, la santé, la croissance, la nourriture. Il faut toujours le redire parce que ce n'est pas acquis, on ne peut pas le donner pour acquis partout, mais aussi droit à être protégé contre des attaques dont ils peuvent être victimes. Il y a un devoir des parents de veiller à l'éducation des enfants et aussi que ce qui leur est transmis corresponde à l'éthique qu'ils retiennent juste pour leur enfant. Ça demande une vigilance, ça demande aussi que les parents soient attentifs aussi à ce qui est diffus, transmis de façon parfois anarchique et erronée, et puis blessante aussi pour la sensibilité des enfants. Puis un enfant aussi doit avoir la liberté de grandir dans la religion qui est la sienne. Il y a aussi la liberté religieuse, ça existe aussi pour des enfants. Donc c'est tout un ensemble de points qui ont été rappelés et qui seront aussi dans les mois prochains approfondis et précisés. Et nous avons besoin maintenant d'approfondir tout le matériel qui nous est parvenu et les différentes interventions que nous avons entendu dans les jours derniers.
Vous avez fait le bilan de la dernière rencontre mondiale des familles au Mexique. Quel est ce bilan et quelles sont les perspectives pour les prochaines rencontres mondiales des familles ?
Alors je crois que la rencontre mondiale à Mexico a été très très importante et a montré un véritable désir des familles, non seulement d'avoir des paroles claires et encourageantes, tant au plan des contenus qu'au plan pastoral de la part des pasteurs et de la part de l'Église, mais aussi le désir d'avoir des contacts entre familles et je dirais aussi entre familles chrétiennes. Il y a une nécessité d'une socialisation chrétienne de la famille, je dirais, et de plus en plus on constate, surtout dans un monde actuel en Occident, qu'une famille chrétienne seule, isolée, peut être en danger. C'est très difficile, vous savez, parfois pour le membre d'une famille, un jeune, un enfant, un adolescent, de pouvoir témoigner de sa propre foi dans un contexte où il est le seul de sa classe à pratiquer. Alors donc il y a une nécessité, si vous voulez, de rapport les uns avec les autres, de vivre une véritable fraternité chrétienne entre les familles. Alors vis-à-vis de Milan, il y a tout un long chemin de préparation. Il y a un très grand travail de recherche et d'approfondissement qui se fait sur une base sociologique d'une part, pour voir un petit peu de quelle manière dans les différents pays on peut montrer que la famille est une ressource authentique pour la société. Milan sera en juin 2012 et c'est un très grand chantier. De plus en plus, les familles chrétiennes ont le sentiment d'appartenir à l'Église et d'en être comme le ferment, si vous voulez. L'Église, c'est aussi une société. Et si on peut dire que la famille est la cellule fondamentale de la société, on peut dire que la famille chrétienne est aussi la cellule fondamentale de l'Église, d'une certaine manière.